Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Nous retournons donc en Afrique. Non par avion, bateau ou autostop, mais à travers siècles et millénaires, tant l'histoire de ce continent est riche et profonde. Cette émission est en préparation depuis longtemps, depuis plus de 15 ans, qu'un curieux personnage s'est arrogé le droit de discourir devant des étudiants et des professeurs de l'université Cheikh Anta Diop sur le thème de l'histoire de l'Afrique, dont il ignorait à peu près tout. Un groupe d'historiens, d'Africains, portugais, français, suisses, canadiens, ont répondu en français, en anglais, en portugais, en arabe, à ce discours de Dakar et à son triste présentateur, qui ne l'avait même pas écrit lui-même, ou du moins c'est l'argument que cet avocat a trouvé pour se disculper. Voici donc quelques éléments de réponse à ce monsieur. L'apparition de l'homme d'aujourd'hui, le brillant Sapiens Sapiens, a été confirmée en Afrique plus de 160 000 ans avant notre ère. Et avec les calculs génétiques, on peut estimer les fossiles humains les plus anciens à plus de 200 000 ans sur le continent africain. Plus précisément, les historiens et archéologues, dont j'exploite sans scrupule les recherches, ont trouvé en 2003, au Mali, à Ounjougou, des fragments de céramique engloutis sous 15 mètres de sédiments. Cette couche sédimentaire date de la période holocène, qui recouvre les 12 derniers millénaires. Datée au carbone 14, puis, selon la technique de la luminescence stimulée optiquement, ces tessons se révèlent d'un âge supérieur à 9500 ans, soit de plus de 2000 ans plus anciens que les fameuses céramiques du Proche-Orient. La technique de la luminescence stimulée optiquement, LSO, repose sur la radioactivité d'éléments découverts dans des fouilles archéologiques qui émettent des rayons quand on les expose à une lumière très vive. L'intensité du rayonnement de l'objet exposé à la lumière permet de calculer la durée pendant laquelle cette pièce a été enfouie dans des couches sédimentaires au fil des années ou des siècles. D'autres découvertes confirme le dynamisme de la civilisation africaine. La métallurgie du cuivre et du fer se développe depuis le troisième millénaire avant l'ère chrétienne. On parle du néolithique africain pour cette époque. Le néolithique étant, on se le rappelle, l'âge qui a suivi celui de la pierre polie. On a retrouvé des flèches du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, qui présentait un alliage de fer et d'or. Oui, oui. L'élevage des bovins date en Afrique du neuvième millénaire avant notre ère, soit 1000 ans avant la Grèce et le Proche-Orient. Et les céramiques africaines les plus anciennes au monde datent du dixième millénaire avant Jésus-Christ. Agriculture et métallurgie se sont développées jusqu'au début de l'ère chrétienne en direction du sud du continent. D'autre part, depuis le troisième millénaire antéchristum et jusqu'à la mort de Cléopâtre, 30 ans avant Jésus-Christ, l'essor politique de l'Égypte pharaonique est marqué par un grand phénomène d'urbanisation, avec par exemple les villes d'Aksum à l'est ou de Djéné sur le Niger. Et l'urbanisation est un facteur de civilisation très important, car la densité de population posant des problèmes sociaux, alimentaires et sanitaires, entre autres, il faut bien les résoudre et avoir donc des solutions. Cette urbanisation a peut-être favorisé la coexistence entre les techniques de l'âge du fer et celles de l'âge de la pierre permettant un habitat urbain durable. Merci d'écouter Canal Sud, et c'est bien contre histoire, et on continue. Au milieu du premier millénaire de l'ère chrétienne, survient l'occupation par la Perse de la corne de l'Afrique, avec métissage et échanges culturels et techniques dans tous les domaines. Alors, se sont organisées des structures politiques fondées sur les grandes familles et sur une féodalité très hiérarchique, reposant sur le commerce et les conquêtes. Bénin, Congo, Zimbabwe existaient déjà depuis le XIIe siècle de notre ère, quand les Portugais sont apparus au XVe siècle. Du XVIe au XVIIIe siècle ont prospéré ainsi de nombreuses sociétés non islamisées. À partir du VIIIe et jusqu'au XIIe siècle, les Arabes arrivent par le fleuve Niger en partant de la côte est et en apportant l'islam. Événement majeur qui met l'Afrique subsaharienne en contact avec la Méditerranée. Les dirigeants se convertissent et l'islam devient un moyen privilégié de relations, tant diplomatiques que commerciales. Islam non arabe qui se façonnera par la suite. Commence alors une période d'intenses échanges, l'or médiéval de l'Europe occidentale, qui permit de s'approvisionner en produits précieux d'Asie, provenait presque exclusivement du Soudan occidental, avant la découverte de l'Amérique. Or échangé sur le Niger contre des barres de sel apportées par les caravanes berbères. Quand le souverain du Mali, Kankou Moussa, en route pour la Mecque, fit escale au Caire avec son importante suite, ils apportèrent tant d'or qu'ils provoquèrent une forte inflation locale, l'or étant alors la seule monnaie, et sa multiplication permettant à ceux qui la possédaient d'acheter tout s'ils le voulaient, entraînant des pénuries de produits et bien sûr les hausses de prix qui vont avec. Et plus au sud, la ville de Old Zimbabwe, aux colossales ruines de pierre à faire pâlir tous les empereurs romains, échangeait son or contre des porcelaines de Chine venus par l'océan Indien. C'est l'époque des empires du Ghana, du Mali ou du Songhaï qui devint si puissant sous le règne de Sony Alibert qu'il intégra le Mali avec Gao et Tombouctou pour devenir le plus puissant pays d'Afrique de l'Ouest au XVe siècle. L'expansion de l'islam en Afrique est liée aux conquêtes politiques ou militaires suivant le chemin du commerce. Le christianisme, lui, ne s'est développé qu'avec la colonisation, dont il a été le fidèle serviteur. Les élites locales africaines ont offert à l'islam le meilleur accueil, puisque les échanges créés dynamisaient les économies des régions visitées. Les contacts interrégionaux devinrent intercontinentaux et d'autant plus enrichissants. l'Afrique, ouverte et tolérante, a reçu l'islam comme une richesse nouvelle, pour le mêler aux traditions et croyances locales, dans un syncrétisme souvent poétique et harmonieux. C'est ce que l'on retrouve depuis, aux Antilles, au Mexique et au Brésil. Et le folklore de nos campagnes mixe aussi volontiers consignes ou interdits chrétiens avec préjugés et traditions locales. Ainsi émergent les puissants empires soudanais ou zimbabwéens qui contrôlèrent le commerce de l'or, de l'ivoire, des peaux, des carapaces de tortue et celui des esclaves sur lesquels nous allons nous documenter. Les Portugais développèrent le cabotage commercial sur toutes les côtes africaines. Quelques Européens diffusèrent alors, à partir des comptoirs d'échange, des idées et des pratiques parmi les nombreux acteurs de ces opérations côtières. L'anthropologue belge Van Zina attribua même à l'adoption du maïs, des haricots, des patates douces et du manioc, installé en Afrique entre les 15e et 20e siècles de notre ère. Il attribua à ces légumes, à ces tubercules même, la création dans la région du Congo actuel des empires Luba, Lunda et autres. Van Zina a constaté le type de paysage créé au Rwanda et au Burundi par ces plantes dites américaines. En Afrique orientale et australe, les plateaux sont entièrement recouverts de maïs, ce qui a modifié profondément les échanges de ces pays. Le phénomène s'est retrouvé aussi en Amérique avec l'introduction du riz par les esclaves de la traite. La traite. Qu'est-ce que la traite ? Traire une vache ou une chèvre, c'est lui prendre le lait que son corps produit pour sa progéniture. C'est donc détourner une richesse naturelle de son emploi naturel pour un profit humain. Mais pourquoi appeler traite négrière ces déportations de populations ? Traite est le résultat de l'action de traire, d'extraire. Extraire signifiant bien ôter de son environnement d'origine un élément, minerai, dents, etc., dans un but précis. La traite négrière, c'est donc extraire une population de son pays d'origine pour le profit qu'en rapportera l'esclavage. On a donc trait l'Afrique de sa population, arrachée à sa terre pour enrichir l'Europe et l'Amérique blanche et assurer la révolution industrielle. On trouve des traces de l'esclavage, notamment dans la Bible et dans le Coran. Mais les esclaves y demeurent des êtres humains. L'esclavage pouvait sanctionner un délit ou des dettes, et surtout être le résultat d'une défaite militaire. Mais l'humanité n'était pas déniée à l'individu, tel que l'a voulu le Code noir de Colbert et Louis XIV. Fort bien toléré par la suite par les philosophes du siècle des Lumières. Dans le monde grec et romain, les esclaves étaient blancs en général. La déportation des Africains et Africaines pour l'esclavage s'est pratiquée du XVIIe jusqu'à la fin du XIXe siècle au moins. L'Afrique subsaharienne est devenue la source unique et gigantesque du matériel humain dans toutes les directions. Les Noirs en furent de loin les principales victimes, même si les Indonésiens étaient les préférés des Néerlandais du Cap. L'autre caractéristique sinistre de ce commerce fut son intensité, sur une période relativement courte. En 2 siècles et demi, il draina peut-être le double des déportations esclavagistes transsahariennes en 10 siècles. Les profits énormes alimentèrent le cercle infernal du capitalisme moderne, insatiable de sucre, de canne et de coton, qui fit fonctionner la révolution industrielle. Le seul mot de traite est une insulte aux victimes, dont on parle alors comme d'un objet à négocier au mieux. Elle fut interdite sur l'Atlantique en 1807, interdiction généralisée en 1815, laissant subsister l'esclavage, qui ne fut interdit qu'en 1835 en Grande-Bretagne, en 1848 en France, en 1863 aux États-Unis et en 1888 au Brésil. Et il n'y eut pas que la traite atlantique. L'autre mouvement de déportation de populations africaines vers l'esclavage eut son centre à l'est de l'Afrique, à l'île de Zanzibar, occupée par les Perses depuis le 8e siècle. Trafic d'esclaves à destination du Moyen-Orient et de l'Inde entre différentes puissances mondiales. On parle alors de traite arabe, parce que les premiers conquérants étaient musulmans, et pas arabes. Ce trafic s'accentua à l'interdiction de la traite atlantique, d'autant que cette interdiction fit monter les prix au marché des esclaves. Partout, les femmes étaient à plus d'un titre les plus recherchées. Elles étaient les principales travailleuses de la terre. D'autre part, dans ces sociétés matrilinéaires, les enfants appartiennent à la mère libre, et la compensation matrimoniale, à verser par le futur mari en dédommagement à la famille de la future épouse, pouvait être élevée. Acheter ou enlever une esclave était pour l'homme un double bénéfice, l'esclave étant par définition sans famille. L'homme ne devait plus payer de dot ni rendre éventuellement les enfants.
Anyanda to alama Ala bena tunye de me Anyanda to alama Ala le bena tunye de me Lolo somadala Baba be kongo sirala Tamala telekoro Baba veta seneke telekoro Tele ye babaka Wolo wolo ye babaka Daba no be bo baba bolola Bingon fe fana ye babaka.
Les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, décrétant l'esclavage illégal au début du 19e siècle, Zanzibar ne peut plus vendre les esclaves qui transitent sur l'île. Beaucoup seront enrôlés dans les armées de conquête des Djihad d'Ousmane, d'Anfodio et d'Eladj Oumar. Est alors introduite à Zanzibar le giroflier, qui nécessite une abondante main-d'œuvre pour produire le clou de girofle, aussi grande vertu culinaires et médicinales. Le succès de cette culture est tel que la demande en esclaves dans l'archipel augmente, obligeant les négriers à s'aventurer à l'ouest des grands lacs africains. Devant la recrudescence de ce commerce, les Britanniques obtiennent, en 1822, l'établissement de zones maritimes interdites aux navires négriers, limitant ainsi la vente d'esclaves à Oman. La culture de l'indigotier est lancée alors. Celle du clou de girofle encouragée. Et Zanzibar en devient un des principaux producteurs mondiaux au XIXe siècle. En 1833, autre traité commercial entre Zanzibar et les États-Unis, celui de l'ivoire, utilisée pour la fabrication des boules de billard et des touches de piano. Zanzibar prend alors une énorme importance en devenant la plaque tournante de nombreux nouveaux commerces. Le pillage de l'Afrique continue. Entre 1830 et 1873, environ 700 000 esclaves furent vendus sur le seul marché de Zanzibar et 13 000 esclaves par an arrivaient à Zanzibar ou y transitaient en direction d'Oman, au sud de l'Arabie, Oman, comme chacun sait. L'Angleterre conclut alors un accord avec le sultan de Zanzibar, interdisant d'envoyer des esclaves vers Oman. Traité d'interdiction qui ne fut pas appliqué, la Grande-Bretagne n'ayant pas les moyens suffisants. Et en 1850, c'est 14 000 à 15 000 Africains par an qui prenaient la route de Zanzibar. Contre-histoire est donc retournée en Afrique, avec Canal Sud. Et c'est pas plus gai que d'habitude. On n'est pas là pour s'amuser. La révolution industrielle fit tache d'huile dans toute l'Europe, en Afrique et ailleurs. Les interventions politiques européennes se succèdent au Cap en 1795, en Afrique intertropicale, à Freetown en 1807, colonie britannique, comme à Gorée et Saint-Louis en 1802 et jusqu'à 1816, avant la colonisation française. Napoléon débarque en Égypte en 1799 et 1830 verra la conquête de l'Algérie, suivie en 1836 de la mainmise des Boers en Afrique du Sud. C'en est fait de l'autonomie et de la liberté des territoires jusque-là indépendants. Après la traite des êtres humains, suit la traite des richesses matérielles pour alimenter l'énorme essor industriel européen. L'Afrique du Nord et de l'Ouest voit s'en aller leurs oléagineux. La Mauritanie, la gomme arabique de ses acacias. Zanzibar, ses clous de girofle, les régions centrales et équatoriales sont saignées de leurs forêts et de l'ivoire de leurs éléphants. Fin 19e, l'industrie automobile commence à engloutir le sang caoutchouteux des EVA du Congo et de la Côte d'Ivoire, qui doit son nom à ces pillages. Toutes ces productions entraînent l'esclavage local et des déportations dans le but d'esclavage à l'intérieur du continent, sous la férule des armées occidentales qui corrompent des potentats locaux pour plus de rentabilité. La conférence de Berlin de 1885 officialise le partage de l'Afrique entre les puissances européennes qui vont aspirer toutes les richesses du continent africain pour transformer le monde, en confondant boulimie de confort avec gaspillage, sans tenir compte ni des droits humains des populations exploitées, ni de la mise en danger de la planète entière. Le colonialisme s'installait par la violence que les colonisateurs appelèrent pacification, avec comme outil l'impôt par tête, le travail forcé, les cultures obligatoires d'exportation pour assouvir les caprices européens, caféier, cacaoyer et surtout coton. Ceci sous le statut de l'indigénat. L'indigène peut subir sans jugement amende, internement, voire déportation, ou encore réquisition de ses biens. Les sanctions collectives sont aussi possibles. En dehors de l'Afrique occidentale, les autochtones étaient aussi expropriés pour être regroupés dans des réserves, dans les colonies britanniques, en Asie, etc. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le colonialisme instaura surtout le pillage systématique. Ensuite apparurent des investissements présentés comme mise en valeur des territoires, mais en fait installations permettant de décupler l'exploitation des terres et des habitants. Ce furent l'ouverture des mines, et la construction de voies de communication. La fameuse voie ferrée Congo-Océan, pour exporter plus vite et plus aisément le plus possible de richesses, et qui coûta entre 18 et 23 000 hommes. Peut-être même 30 000 morts sur les 512 kilomètres de voies ferrées. C'est bien contre histoire sur Canal Sud. Encore un peu de courage. On distingue deux types de colonisation. La colonisation de peuplement et la colonisation d'exploitation. La colonisation de peuplement, comme l'Algérie ou l'Afrique du Sud, qui ont aussi le même climat, très favorable à l'implantation durable de populations étrangères. Des populations métropolitaines s'implantent par goût de l'aventure, avec espoir de faire fortune ou pour fuir une vie problématique. Des hommes arrivent d'abord avec une structure militaire et ensuite leur famille et ou des groupes, hommes et femmes, envoyés par leur gouvernement comme administrateurs divers et autres. Populations rapportées qui vont rester entre elles sans autre contact avec les populations autochtones que ceux de la domesticité ou de l'emploi dans les exploitations agricoles et les mines. Ces colonies ont le plus souvent nié l'existence des populations indigènes, se comportant en terrain conquis, les colons se sentant les seuls propriétaires. Sentiment qui s'est renforcé au fil des générations, alourdi par les situations hiérarchiques facilitant les abus jusqu'aux explosions que l'on sait. La colonisation d'exploitation n'avait d'autre fonction que d'exploiter le pays sous la couverture d'échanges déséquilibrés, mais sans installation durable, à partir des comptoirs situés en zones côtières en général. Les comptoirs évoluaient parfois en colonies de peuplement selon leur réussite matérielle, ou en base militaire, pour signifier encore la présence du colonisateur après les indépendances. Sous le régime colonial, il y avait dans la colonie deux collèges électoraux. Le premier, dans lequel n'étaient inscrits que des colons ou des militaires du pays colonisateur, donc des Blancs, qui votaient pour leurs députés, sénateurs et, le cas échéant, conseillers municipaux. Dans le deuxième collège, il n'y avait que des autochtones, en Afrique donc des Noirs, qui votaient pour leurs députés et en général pour des Noirs. Le deuxième collège n'élisait que des représentants n'ayant qu'un rôle consultatif, le collège des colonisateurs détenant alors seul le pouvoir. Tandis que le droit de vote avait été progressivement retiré aux Africains en Afrique du Sud, le système totalitariste dans le reste du monde colonial évolue. Ainsi, après 1848, les quatre communes à régime spécial de Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar ont eu la possibilité d'élire un député à l'Assemblée nationale française. Et Napoléon III a supprimé le 2 avril 1852 ce siège parlementaire du Sénégal. En Algérie, les colons avaient violemment refusé la possibilité de naturalisation pour les autochtones, faisant par là échouer la loi Blum-Violette en 1936, supprimant donc la possibilité du droit de vote en même temps aux Algériens. La vie locale était réglementée à partir du droit du colonisateur, teinté de droits coutumiers local pour donner une apparence démocratique à l'ensemble. En Afrique occidentale française, dans les années 30, sont ainsi élaborés les grands coutumiers, où les administrateurs collationnaient et transcrivaient, à leur guise, les coutumes censées leur être transmises par les chefs locaux. lesquels donnaient souvent des versions conservatrices, leur permettant de sauvegarder au mieux leurs privilèges. De l'époque contemporaine, on distingue deux phases. Une première, 1963-73-90, longue période houleuse de régression en matière politique, la démocratie ne s'improvisant pas. Coup d'État, régimes autocratiques et militaires, aux théories aussi bien libérales que marxistes, renforcement de l'apartheid en Afrique du Sud et absolutisme au Maroc. Ensuite, après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, fin de l'apartheid et succession de conférences nationales de contestation politique, la première ayant lieu en février 1990 au Bénin, pays champion des coups d'État. Suivent des ouvertures sur tout le continent, Maroc et Algérie inclus, en même temps que des accès d'un fondamentalisme ethnique ou religieux, musulman ou chrétien évangéliste, qui se côtoient et s'affrontent, comme au Nigeria. Mais toute histoire reste dépendante de ses sources, bien entendu. On peut commencer par Hérodote, considéré comme le premier historien, pour les sommes extraordinaires de récits détaillés sur les périodes qu'il a traversées, comme celles dont il a recherché méticuleusement les traces. Le périple des marins du roi Nekao autour du continent africain pourrait bien intéresser le petit Nicolas. Ce voyage-là date du 7e siècle avant notre ère. Et si Hérodote avait la réputation d'optimiser ses récits, on peut s'adresser à Ptolémée, d'une rigueur incontestée, lui. À la fin du 1er siècle de notre ère, l'auteur inconnu du périple sur la mer Érythrée apporta des renseignements plus variés, plus précis aussi, géographiques et aussi sociétaux, dont s'inspira peut-être Ptolémée, sur les populations rencontrées, leurs activités et modes de vie. D'autres aventures maritimes confirment et complètent le récit de ce voyage, révélant les côtes libyennes et tout l'ouest de l'Afrique, comme le périple plus connu des marins d'Annon, le Carthaginois. On voit apparaître chez Pline l'Ancien la description d'un vaste continent, limité au nord par la Méditerranée et à l'est par la mer Rouge. On commence à imaginer que les mers occidentales et orientales se rejoignent peut-être à son extrémité sud. Le terme « Africa » est réservé à la partie nord de l'Afrique. Les territoires subsahariens sont nommés « Aethiopia ». Au IIe siècle, Ptolémée a élaboré une carte qui va dominer la géographie occidentale et arabe pendant tout le Moyen Âge. L'Afrique s'y étend bien au-delà du Sahara et le sud du désert est bordé par un océan. Le continent se prolonge plus vers l'est que vers le sud. À l'intérieur des terres sont mentionnées la Libye au nord et l'Éthiopie au sud. Sur cette carte figure également le tracé du Nil. L'arrivée des Berbères, puis des Arabes, apporte une importante littérature écrite, surtout du Xe au XVIe siècle de notre ère. Ainsi, Ahmed Baba de Tombouctou, les chroniques de Kano ou de Kilva, la littérature des sultanats de Sokoto, Al-Masoudi, Al-Idrisi, Ibn Battuta, Al-Omari, et même Jean-Léon de Médicis, dit Léon l'Africain. Cela évoque précisément la cour de l'empire Mansa du Mali. et Le Point a édité une vidéo magnifique sur YouTube à propos du tombeau des Askia à Gao. Les chroniques locales apportent à foison des informations en arabe ou en peul. L'archéologie et la linguistique complètent et confirment les sources de l'histoire africaine quand il manque les traces écrites dans cette civilisation marquée par l'oralité, dans la période bantoue en particulier. Les informations transmises oralement, puis transcrites localement dès le XVIe siècle, ou par les premiers voyageurs, sont précieuses, certes, mais aussi sujettes à évolution. Lors de leur passage de l'oral à l'écrit, même les sources archéologiques qui aboutissent finalement à l'écrit dépendent en partie de la lecture de leurs découvreurs, qu'on dit aussi inventeurs. D'où l'importance de la mémoire collective de l'histoire vécue par les populations locales et appuyée sur des objets, des coutumes et des sites repères, plutôt qu'exclusivement par des chercheurs étrangers. Et une histoire des pensées et des mœurs s'impose, somme des influences multiples fondues dans un syncrétisme religieux fait d'animisme originel, d'islam adapté, de christianisme polymorphe où survivent de fortes empreintes de vaudou et de magie locale. Tout comme ces pratiques encore récentes de nos campagnes profondes et françaises, genre corbeau cloué sur une porte ou autre signe sympathique de communication. L'historien doit transmettre au monde l'histoire de l'Afrique, mais aussi ses découvertes, ses héritages, avec leur permanence et leur nouveauté, ses questions et leurs mystères, pour répondre au monde d'aujourd'hui.
Povos pilhados e saqueados, por anos e anos de colonialismo. Povos sugados e explorados, alvos de novos imperialismos. Países ricos afortunados, com o sangue, a riqueza dos oprimidos.
O Becó, maluca se Baba defensora la maloura. Olha o Baba Sene, olha o Baba Torola.
Voilà, c'était là mon laborieux résumé de l'introduction de Catherine Kokri-Vidrovitch au petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy. Et comme le précise cette grande historienne, il faut appréhender l'ampleur des processus historico-culturels et suggérer des pistes nouvelles. Ce qui est aux antipodes de nier l'historicité africaine. Cet ouvrage collectif et capital est aux éditions de La Découverte. Y ont participé, outre Catherine Kokri-Vidrovitch, Eric Wiscom et Kléna Sanogo pour l'article Innovation et dynamique créative dans la préhistoire africaine. Drissa Diakité pour l'article Universalité des valeurs et idéal d'humanité en Afrique, témoignage d'explorateur. Boureima Alfagado pour Gestion et prévention des crises de subsistance dans les sociétés précoloniales au Sahel. Doulaye Konaté pour paradigme de l'opposition tradition-modernité comme modèle d'analyse des réalités africaines. Pierre Boilet, pour l'article « Vision française de l'Afrique et des Africains ». Bogumil Joussif Viki, pour « Le refus de savoir est un refus de reconnaissance ». Taïeb Chentouf, pour « L'enseignement du fait colonial dans une perspective d'histoire mondiale ». Olivier Lecourt-Grandmaison, pour « La rhétorique de Sarkozy, apologie du colonialisme, usage de l'histoire et identité nationale ». Assimi Oumarou Maïga, pour « Aspect de la contribution de l'Afrique au développement du Nouveau Monde et de la France ». Kinvi Logosa, pour « Aux origines de la traite négrière transatlantique, introduction au débat sur la responsabilité africaine ». Ibrahima Tiyoub, pour « Esclavage et traite en Afrique occidentale, entre mémoire et histoire ». John Igwe, pour « Le rôle de la colonisation dans l'immobilisme des sociétés africaines ». Sébastien Dossas Asanjo, pour « Pérennité des structures de dépendance et reproduction du sous-développement, Bénin de la colonisation à aujourd'hui ». Daouda Tunkara Gari, pour « Crise ivoirienne, poids de l'histoire coloniale ». Sandra Fakbohoun, pour « La philosophie négro-africaine, la lutte permanente pour sa reconnaissance ». Isidore Ndaiwel Enzim, pour « L'union pour la Méditerranée, projet pour diviser l'Afrique et tourner le dos à la francophonie ». Johar Sidhoum Rahal, pour « Le Sahara n'est pas une frontière, identité africaine, racialisation et hiérarchisation ». Alioune Sall, pour l'article « Renaissance africaine, un défi à relever ». Adameba Konare, pour « L'introduction générale d'abord » et aussi pour « Gouvernance et expérience démocratique en Afrique, culture et histoire ». Et Catherine Clément, pour la postface de cet extraordinaire ouvrage. François-Xavier Fauvel, professeur au Collège de France et à l'Université Jean Jaurès de Toulouse, a compilé « Histoire et légendes » pour nous enchanter avec le très beau livre du Rhinocéros d'or aux éditions Taillandier. Thank you. Et on ne peut pas parler d'histoire africaine sans évoquer Cheikh Anta Diop, dont l'université de Dakar porte le nom. Nom que n'a pas voulu prononcer Sarkozy. Mais cet insultant silence a créé une si puissante attraction pour l'œuvre de Cheikh Anta Diop, Nations nègres et cultures, qu'elle s'est depuis vendue comme des petits pains. Cheikh Anta Diop, avec son ami Aimé Césaire, ont appris au monde que la plus ancienne et prestigieuse civilisation du monde, la civilisation égyptienne, était noire. Découverte que chacun peut vérifier en se promenant dans les musées d'Égypte, au milieu des statues et peintures multiples des dieux égyptiens, des pharaons et des reines, pour y reconnaître leurs traits caractéristiques, lèvres, nez, pommettes, etc. Le site de l'Encyclopédie Universalis, ou un petit tour dans une bonne bibliothèque, peut en révéler autant. De jouer. Merci de votre écoute et à bientôt.